Bonjour et bienvenue au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique pour une émission spéciale dédiée aux 70 ans du Masque et la Plume avec, pour commencer, un générique comme une histoire de poche de 7 décennies où se sont succédés Michel Polac, François-Régis Bastide, Pierre Bouteiller, Jérôme Garcin et votre serviteuse, le Masque 1955-2025. C'est parti.
Le club d'essai de la radiodiffusion française présente Le Masque et la Plume, un magazine public des lettres et du théâtre, animé par François-Régis Bastide et Michel Polac.
Voici donc notre 23e émission du Masque et la Plume.
Non, je crois que c'est la 3e, c'est incident technique ça.
Tu n'as toujours rien trouvé à dire.
Rien.
T'as reçu un coup de téléphone d'une admiratrice.
Pas le moins de coup de téléphone.
C'est le masque et la plume.
Le masque et la plume. Écoutez la différence. Je vois que vous l'avez remarqué. Je voudrais simplement faire un tout petit point d'histoire pour commencer. Il y a 25 ans, plus que ça, il y a 27 ans, nous sommes donc dans la 28e. Georges Charansol, je voudrais essayer de pouvoir faire une phrase d'une seule traite. Après, on verra.
Le masque et la plume.
En tout cas, Jérôme, bonne chance et j'espère que tu arriveras mieux que moi à faire arriver Brochier à l'heure, à ce qu'il ne fume pas au studio et qu'il évite de parler de la chasse. J'espère que tu arriveras aussi à demander à Jean-Didier Wolfram de ne pas trop lire les livres parce que quand il les lit, il est moins bon et puis il risque de se laisser influencer par le contenu.
Jérôme ? Je suis un peu inquiet parce que je viens de découper dans l'Observateur de cette semaine une interview de toi, Bouteiller. Alors, rajeunir, ça va encore. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est que tu dis « Je ne suis pas un accro de l'audimat, mais il y a un problème d'audience. Certaines émissions sont trop parlées. » Alors, est-ce qu'il faut qu'on chante maintenant le masque et la plume ?
Le masque
et la plume. Permettez-moi de prendre la liberté de prononcer une seule et unique fois le nom de cette émission avec l'accent de ma grand-mère paternelle. Le micro est à Rina Manzoni qui dirait « Les masques et la plume ». En 1955, Little Richard écrit les tables de la loi du rock'n'roll avec Tutti Frutti. Patricia Highsmith publie Le talentueux Monsieur Ripley, La Strada de Fellini sort sur les écrans français, Jean Villard met en scène Le Don Juan de Molière au Festival d'Avignon et tous les téléphones ont un fil. Depuis, Le Masque et la Plume a connu 8 hommes différents à la présidence de la République. Les 7 décennies du Masque recouvrent donc une histoire culturelle mais aussi politique et sociale française. Une histoire de la radio, une histoire du verbe, de la joute et de votre écoute. Pour fêter toutes ces années de liberté critique, seront présents sur scène celles et ceux sans qui le masque n'existerait pas, des artistes, cinéastes, productrices, autrices, auteurs, dramaturges, metteurs en scène. Quelle est leur histoire avec le masque et avec la critique ? Cet anniversaire se conjugue au passé, au présent et au futur. Afin que le masque et la plume conservent son titre de programme audiovisuel le plus ancien d'Europe, nous nous sommes amusés à imaginer le générique de 2048.
Le masque et la plume.
Le masque et la plume fête ses 70 ans au studio 104. Rebecca Manzoni.
La lecture des courriers, mails et messages Instagram des auditrices et auditeurs que vous êtes est un rituel du masque. Parfois vous approuvez et souvent vous critiquez les critiques, puisque le débat contradictoire est l'une des spécificités du service public. Le masque est une histoire de la radio, donc c'est aussi la vôtre, un bien collectif autant qu'intime. Voici quelques-uns de vos messages pour fêter vos noces de platine avec le masque et la plume.
Bonjour le masque.
Oui, bonjour le masque.
Bonjour le masque et la plume, cher masque.
Je ne vous écoute pas depuis 70 ans, mais au moins depuis 50.
De mémoire, je n'ai jamais vécu sans le masque et la plume. J'ai 55 ans dans 5 jours.
Cher masque, le masque et la plume, c'est la nourriture pour moi. On écoutait le masque et la plume religieusement
ensemble en famille en mangeant des nouilles. Et aujourd'hui, j'écoute Le Masque en podcast en préparant le dîner.
En 2008, j'étais enceinte. Les hormones avaient bien modifié mon sommeil. Et les copains, ils viennent pas en plein milieu de la nuit pour parler de cinéma, de littérature avec vous et vous remonter le moral. Vous aussi, vous m'avez permis de passer cette période et les 18 ans qui suivent. Il y en a eu d'autres, des moments d'anxiété. Et toujours, vous étiez là, sous mon oreiller.
Pour moi, Le Masque, c'est des souvenirs de retour de week-end, arrivé au péage de Saint-Arnoult avec les bouchons, mais avec le masque. Donc, des très bons moments.
Un souvenir, celui des dimanches soirs dans le salon, où des gens s'engueulaient à partir de 20h. Je pense que c'est le seul moment que ma mère a réussi à préserver de mes tyrannies d'enfant. J'étais toute petite, c'était il y a plus de 50 ans. Il y avait des critiques, il y avait la question du bon goût, il y avait la voix de Jean-Louis Borry et celle des autres. Ce sont ces mots que j'ai prononcés il y a quelques semaines pour les obsèques de ma mère. Enfin, tous réunis, nous avons écouté un extrait de la critique du cerveau d'Oury. Jean-Louis Borry et Chérin Sol s'engueulaient, encore dans un salon, cette fois-ci celui du crématorium.
Plus tard, je me suis demandé pourquoi mes parents, qui n'allaient ni au cinéma, ni au théâtre, et ne lisaient pas les livres sans écouter cette émission. Quant à moi, je l'ai vraiment découverte quand j'avais plutôt 17-18 ans.
En fait, c'est très drôle parce que donc j'ai 25 ans et j'ai commencé à aller au cinéma il y a un an et demi, deux ans. Pourtant, ça va faire 15 ans que j'écoute Le Masque et la Plume. Vous m'avez donné envie d'aller au cinéma, donc j'y suis allée tardivement, mais j'y suis allée, donc merci pour ça.
Eh bien, c'est Guy. Oui, le gars repéré par Rebecca Manzoni. Juste témoigner de ma fidélité à l'échelle du temps. J'écoute Le Masque et la Plume depuis mes 20 ans et je viens au Masque depuis 2001, date cinématographique s'il en est, où je prends la parole régulièrement, comme tout le monde le sait maintenant. À bientôt.
Moi, je suis une fidèle auditrice, mais aussi spectatrice du Masque et la Plume théâtre. Et je me souviens que je sortais de l'enregistrement et j'écrivais un courrier. C'était un masque théâtre, une complainte. J'attendais un mois et je voyais Jérôme Garcin lire ma réponse à Jacques Nerson. Et c'était des instants délicieux.
Si cette émission fête aujourd'hui ses 70 ans, lui incarne la moitié de cette histoire, puisqu'il en a été le chef d'orchestre pendant 35 ans, après en avoir été l'un des critiques littéraires. La phrase que je m'apprête à prononcer risque de lui déplaire, mais je fais ce que je veux. Merci d'accueillir Jérôme Garcin sous vos applaudissements. Comment ça va?
Ah ben là, à l'instant, c'est presque l'orgasme hein, pour moi. On n'est pas loin de ça. Non, il faut pas me prêter le micro. Hein.
Ah oui?
Ben non, je suis capable de le garder.
Tu connais bien les lieux.
Je connais les lieux. Ben, c'est ici que j'ai commencé, en fait. Hein.
Je ne vais pas te demander en quelle année.
C'est mon pire souvenir. C'était à la fin des années 70. J'avais 20 ans et des poussières. Et on me dit, François-Régis Bastide me dit d'entrer comme critique littéraire au Masque et la Plume. Alors, c'était pas la même configuration, mais c'était la même grandeur de studio. Et j'arrive ici et monter à la tribune pour retrouver Mathieu Gallet, Bertrand Poirot-Delpech, Robert Canters. J'ai cru que je montais à l'échafaud. Mais un trac
phénoménal. Au club.
Voilà, ça, c'est un souvenir très précis.
Alors, avant d'orchestrer et d'être critique littéraire à la Tribune du Masque, tu en as été un des auditeurs.
Ah, j'étais un auditeur à 15 ans, 16 ans, sur ma TSF. J'écoutais cette émission.
Tu as grandi avec le masque.
Moi, c'était pas une émission, c'était une pièce de théâtre, d'ailleurs, qui a commencé là où nous avons enregistré successivement, c'est-à-dire au théâtre de l'Alliance française, c'était au Vieux Colombier, c'était aussi dans ces théâtres au Récamier. Et quand j'écoutais, je me disais, mais qui sont ces gens d'abord si éloquents, si brillants, si méchants, qui s'insultent, qui se traitent d'abrutis, C'est quoi ce spectacle? Et applaudi, bien sûr, par le public, avec des intervenants. Et je comprenais pas, mais ça me fascinait. Et c'est vrai que j'ai, quand j'ai repris l'émission, j'ai voulu retrouver un peu ce que j'entendais quand j'étais adolescent.
Donc tu as animé aussi le masque en hommage, si je puis dire, à tes souvenirs d'auditeur, finalement. Alors aujourd'hui, je le disais, le masque est le plus ancien programme audiovisuel d'Europe. Comment tu expliquerais cette longévité, toi, Jérôme ?
Il y a une raison évidente, mais qu'on répète toujours, c'est la liberté de critiquer, de parler, d'aimer, de détester.
On parle des temps qui courent, on peut le rappeler.
Qui est unique en son genre. Il y a une autre raison. Quand on a, comme moi, animé pendant 35 ans une émission, on se rend compte que ça passe d'une génération à une autre. Et entre nous, il faut dire que le plaisir qu'on a à l'écouter est un plaisir très régressif. Moi, je me souviens que des auditeurs me disaient que le dimanche soir, à l'époque, on n'était que le dimanche soir, à 20h, qui se préparaient, avant d'écouter le masque, qui se préparaient des repas régressifs, c'est-à-dire pâte alphabet, jambon et puis pain perdu, pour pouvoir retrouver ce qu'était pour eux le masque que leurs parents écoutaient, qu'ils ont passé à leurs enfants, et puis leurs enfants à leurs enfants. Et ça, je crois que c'est le secret de la longévité, c'est-à-dire la prolongation d'une idée, d'une émission qui est plus qu'une émission et qui incarne une France, qui est la France, je dirais, aussi bien de la bataille d'Hernani que de d'Astérix ou de Charles Trenet ou de Droit de réponse. C'est ça, cette France-là, et qui est, comme par hasard, très écouté à l'étranger pour ces raisons-là aussi.
Alors, être critique à la tribune du masque ou l'orchestrer, c'est une chose, mais toi, tu publies. Si un jour, un de tes livres était à la tribune du masque, vivrais comment ?
Mais moi, j'en rêve, parce que pendant 35 ans, par déontologie, j'ai refusé d'inscrire, évidemment, mes propres livres au programme du masque. Contrairement à un de mes prédécesseurs qui avait fait un truc de dingue, c'était mon cher François-Régis Bastide,
qui avait mis un de ses ouvrages à la tribune ?
Non, pire, il avait inscrit une pièce qu'il avait faite, qui se jouait au théâtre de l'Atelier, qui s'appelait Siegfried 78, en hommage à Giraudoux. Il avait dit à ses critiques, vous allez parler de ma pièce ce soir. Alors là, il y avait Guy Dumur, il y avait Sandier, tout ça. J'ai réécouté l'émission. Ils veulent garder quand même leur place.
Ouais, hein,
c'est pas avant. Il y en a un seul, c'était Marc Cabru, qui n'a pas voulu en parler. Il a été viré de l'émission théâtre pendant 6 mois. Tout ça pour dire que, évidemment, que je n'ai jamais voulu inscrire quoi que ce soit que je pouvais écrire ou faire. Mais en revanche, je serais ravi. Vous savez, c'est la vieille histoire. Plus on en parle,
mieux
plus
c'est.
On existe. Donc, et puis, j'avais fait venir pour les 50 ans du masque Claude Chabrol, ça j'oublierai jamais, et qui avait eu ce mot très juste. Il dit, plus on s'engueule, plus on est près de la vérité. Et je pense que l'auteur que je suis aimerait qu'on s'engueule à son propos.
En tout cas, le masque est prescripteur, qu'il s'agisse de critiques positives ou qu'il s'agisse de critiques négatives, d'ailleurs. Alors, comme tu parlais d'un moment avec Chabrol, quels seraient tes meilleurs et pires souvenirs du masque, si on commençait par le pire ?
Par le pire ?
Oui. Oui, gardons le meilleur
le
pour
pire,
la fin.
Le pire, donc, ça a été la montée à l'échafaud à 20 ans.
Donc la première.
Mais non, mais il y en a eu un pire, mais qui est très drôle. On a 2 minutes ou pas ?
Vas-y, prends-les.
À l'époque, je faisais le Masque et la Plume, non seulement au Festival d'Avignon, mais j'enchaînais sur le Festival d'Aix-en-Provence. Donc c'était l'été entier. Hein. Et pour un Masque et la Plume consacré à l'art lyrique. Et j'ai inscrit au programme l'admirable Les Indes Galantes de Rameau, que dirigeait à l'époque à l'archevêché, donc à Aix-en-Provence, au festival, le grand William Christie. Et donc, j'inscris cet opéra-ballet, et puis les critiques autour de moi, on était sur la scène de l'archevêché, plein soleil, c'était enregistré à midi, on est tous en sueur, et ils descendent, non seulement les Indes Galantes, mais en plus, les instruments anciens qu'aime utiliser, évidemment, William Christie.
Tu devais être bien.
Et donc, ils étaient là, furieux, comme sont les critiques d'art lyrique, c'est-à-dire un peu excessifs. Et puis, je vois descendre des gradins une sorte de statue du commandeur, très lentement, marche après marche, et tout d'un coup, dans le soleil, je dis « Ah, mais c'est William Christie !» Et il descendait, les autres étaient là, puis tout d'un coup, je les vois, ils voient comme moi que c'est William Christie. Et là, c'était génial. Mais finalement, il y a de très bonnes choses dans ce spectacle. Et moi, j'ai particulièrement aimé l'usage qu'ils font de certains instruments. Et lui continuait à descendre, comme ça. Les autres avaient complètement retourné leur veste. Je ne vais pas donner leur nom. Et puis arrivé en bas, moi je fais mon métier comme Rebecca, c'est-à-dire, est-ce que Monsieur Christie, vous voulez prendre le micro pour vous exprimer? Il nous regarde avec un mépris hautain, et puis il sort côté jardin, et il disparaît. Mes quatre, ils étaient en âge, pas compliqué, c'était des flaques. Et je leur dis, bah, en fait, c'est la bonne démonstration du masque. Il ne faut pas avoir, comme ce soir, les victimes en face de soi quand on les critique.
J'ai pris ce risque. Et ton meilleur souvenir, alors, pour terminer?
Oh, ben meilleur, je dirais, c'est presque une banalité, mais c'est peut-être là que j'ai éprouvé la relation qu'a cette émission avec ses auditeurs. C'est les quelques mois de confinement en 2020, quand on m'a appelé, la direction des programmes d'Inter m'a dit, le 17 mars, ben toi, tu continues. Et avec nos petits téléphones portables, on a fait un masque pendant plusieurs mois, dans des conditions techniques qui s'approchaient plus de Radio Londres pendant la guerre que de la radio d'aujourd'hui. N'empêche qu'on l'a fait, j'ai reçu des messages absolument bouleversants, où j'ai compris qu'on était une famille, quoi, une immense famille. Et comme il n'y avait plus de salles de cinéma, de salles de théâtre, il n'y avait plus de librairie, j'avais inscrit des films, évidemment, en VOD, en DVD, en Blu-ray, des livres numériques, évidemment, La Peste et Le Hussard sur le Toit. Et les films, évidemment, c'était Mankiewicz, c'était Dino Risi, c'était Truffaut, c'était Godard, c'était tout ça. Et à la fin du confinement, qui a été un moment, encore une fois, physique, épuisant, mais magnifique, et affectivement magnifique, les auditeurs et auditrices ont commencé à m'écrire. Pour une fois que vous parliez de films intéressants, et ça a été un peu la leçon du confinement pour le masque à la plume.
Merci beaucoup, Jérôme.
Merci.
Je te laisse rejoindre la salle et à tout à l'heure pour le bouquet final. Parmi les critiques présents à la tribune du Masque, il y eut Jean-Luc Godard, Emmanuel Carrère ou encore Philippe Collin, non pas celui qui conçoit les excellents podcasts Face à l'Histoire, mais celui qui fut l'assistant de Louis Malle, Éric Rohmer, Alain Cavalier, avant de devenir le réalisateur des derniers jours d'Emmanuel Kant, entre autres. Philippe Collin est décédé en octobre dernier et je saisis l'occasion de cet anniversaire du Masque pour saluer sa mémoire. Le 11 janvier 1998, Jérôme dirigeait la tribune, composée ce soir-là de Daniel Eman, Alain Rioux et Thierry Jousse, quand vint le tour de Philippe Collin pour donner son avis sur Titanic de James Cameron.
Je ne l'ai pas vu en entier, donc je peux... Non, c'est simplement que j'avais oublié...
Tu avais un rendez-vous chez le dentiste,
il ne sait pas comment ça finit.
J'avais oublié qu'il durait 3h20, et quand j'ai senti un peu que la moquette commençait à se mouiller, je suis parti donc, et comme je suis tombé sur l'attaché de presse, je ne dirai rien de ce film, j'ai pris la première chaloupe, enfin le premier taxi qui était là.
C'était simplement, plus alors, parce que les chaloupes, c'est
simplement,
pas
très bien. Je suis franchement, vu la...
Attends, j'en ai vu combien?
Attends, j'en ai vu de... 2h40 à peu près.
Ouais, donc quand même pas mal.
Mais oui, moi je ne peux pas.
Il t'a manqué 40 minutes.
Non, alors ce que je peux vous dire, c'est que je cherche le moyen de pouvoir rentrer dans les salles qui sont pleines, mais simplement parce que je ne veux pas me retaper les deux premières heures et demie.
Oh, non,
quand
mais
même.
Ça,
il y a des limites. Mais je voudrais voir la fin. Alors sur ce que j'ai vu, je trouve ça absolument consternant. Mais enfin, oui. Une espèce de roman de gare, faussement visconde, qu'on tient visuellement.
Pourquoi faussement, avec une actrice qui a une énorme tête tellement grosse
qu'elle est gros blanc et l'écran n'est pas assez grand. Ce DiCaprio qui n'a aucun charisme, méchants de mélodrames, mais sans premier, ni second, ni troisième degré. C'est vraiment... Moi, je trouve ça pathétique. J'étais effondré dans la mesure où j'adore James Cameron.
Ça a pourtant des rapports tout à fait nets avec les précédents films de James Cameron. Ce n'est pas du tout un film en rupture avec ce qu'il avait fait jusqu'ici.
Si ce n'est pas en rupture, c'est que les autres n'étaient pas si bien que je le pense.
Bon, il faut que tu vois la fin.
Je vois la fin qui m'expliquera tout, oui, et puis qui doit apporter un certain soulagement.
Masque et la plume, fête ses 70 ans, Rebecca Manzoni.
Cinéma. Cinéma, littérature, théâtre, nous parlerons de ces trois disciplines artistiques débattues au masque et on commence par le cinéma, avec Pierre Murat, Muriel Joudet, Charlotte Lipinska, Jean-Marc Lalanne, et merci d'accueillir Sylvie Piala, productrice et scénariste, et Arnaud Desplechin, deux fois lauréat du prix des auditeurs du Masque, avec Un conte de Noël et Trois souvenirs de ma jeunesse. Installez-vous, bonjour à tous les deux. Sylvie, vous avez été co-scénariste des films de Piala, Police, Sous le soleil de Satan, Le Garçu, et vous êtes productrice d'un bon nombre de films débattus au Masque. J'en cite quelques-uns, L'inconnu du lac, d'Alain Guiraudy, Timbuktu, d'Abderrahman Sissako, et plus récemment, La vallée des fous, de Xavier Beauvois. Et donc, Sylvie Piala, comment écoutez-vous Le Masque?
Alors, j'ai plusieurs périodes, moi aussi. J'ai la période, comme beaucoup de gens, avec mes parents, un peu la messe le dimanche soir, en voiture ou à la maison, c'est-à-dire que où on partait en sachant qu'on allait l'écouter dans la voiture, ou on ne partait pas pour l'écouter à la maison. Et puis j'ai la période Piala, qui est une période particulière, parce que c'est quand même une émission qu'on adore tant qu'on ne parle pas vaguement de vous, en fait. Maurice, que ce soit la presse écrite ou Le Masque et la Plume, on essayait de ne pas être à la maison ce jour-là, plutôt que de l'écouter religieusement. Et après, évidemment, on pouvait la réécouter si énormément de gens nous avaient dit que c'était super. Et alors après, la dernière période, donc celle que je vis en ce moment, c'est plus facile pour moi comme productrice que pour les metteurs en scène. Mais malgré tout, je continue de ne pas l'écouter quand on parle d'un film que j'ai produit et je le rattrape. Ah, mais un peu sur la formule aussi, je le rattrape mieux quand on me dit « Ah, c'était bien !»
Et si on vous dit que le film que vous avez produit s'est fait descendre, vous écoutez quand même ou pas?
Oui, j'écoute, mais un peu plus tard. Et là, c'est marrant parce qu'avant de venir, comme je me demandais ce qu'on allait bien pouvoir dire, j'en ai réécouté pas mal. Avec le temps, on l'écoute comme si c'était pas, voilà, comme si on n'avait aucun rapport avec ça. Et de toute façon, c'est une émission qui est tellement jouissive, on peut dire, c'est vraiment ça. Et c'est quand même très différent de la critique écrite. Parce que d'un seul coup, ces critiques sont beaucoup plus humains. Déjà, ils parlent. Bon, c'est quand même quelque chose de très différent que juste les lire. Et de pas être d'accord entre eux, c'est quelque chose qui s'éprouve de façon assez jouissive, je trouve.
Arnaud, est-ce que vous écoutez Le Masque que l'un de vos films est au programme?
Jamais. J'ai jamais lu une critique sur mes films. Je crois que j'ai dû en lire. Si, j'en ai lu une dans Télérama sur la vie des morts.
Signé Pierre Murat ou pas?
C'est là où on s'est rencontrés, en tout cas.
C'est là où on s'est rencontrés. Et après, je me suis abstenu parce que je me dis que je ne suis pas la bonne personne pour le lire. Et pourtant, la chose critique, est, vous le savez, est très importante pour moi. C'est vraiment d'être écrivain de cinéma ou écrivaine de cinéma ou réalisatrice ou réalisateur. C'est la même action, quoi. Les objets que terminés sont différents, mais il y a le même engagement dans la cause cinématographique. Mais quand il s'agit de mes films, je suis pas le bon destinataire. De toute façon, je serai froissé. Alors ça sert à rien d'être froissé. Donc du coup,
forcément,
forcément, dans l'éloge ou la détestation, je serai froissé.
Mais quand avez-vous commencé à écouter Le Masque?
Très très jeune, parce que mon père, qui travaillait beaucoup, pouvait pas toujours l'écouter, mais ma mère l'écoutait religieusement pour les films, moins pour les livres et le théâtre. C'est aussi une vie provinciale, donc j'ai adoré ça, de voir ma mère. Ce que disait Sylvie, le désaccord, l'effet que les gens puissent ne pas être d'accord sur un film, polémiquer là-dessus, faire assaut de science, d'art oratoire, etc., et sur des objets dont je sentais intimement qu'ils m'appartenaient à moi. Et c'était la première fois que je voyais des adultes se pencher sur un objet aussi humble qu'un film. Et je pense en particulier, je crois que c'était au Masque et la Plume, c'était des disputes sur Le Livre de la Jungle, qui était réalisé par Walt Disney, qui était un homme d'extrême droite, et sur la chanson qui faisait polémique, qui était « Je voudrais être un homme ». Et est-ce que c'était pas un Africain-Américain qui chantait « Je voudrais être un blanc » et tout d'un coup, je me disais « Ah, mais alors on peut faire un dessin animé d'être de droite ou de gauche ou s'engueuler, etc. » Et je me disais donc qu'il y a des choses cachées dans les films comme ça. Et je voyais les gens écouter. Alors du coup, j'ai demandé à ma mère, en prenant un air pathétique, en disant « Mais bon, nous, on est une famille de gauche, mais je pourrais le voir quand même. » Elle m'a dit « Oui, il y a pas de souci, tu pourras le voir, etc. » Et cette histoire m'a frappé, m'a poursuivi après, pendant avec tous les films, comme ça, comment déplier les films. Et c'est ce que vous faites au Masque et la Plume, c'est vous prenez les films et vous les dépliez par vos désaccords. Et ça, un film, c'est tout simple, tout petit, on replie, on met plein de trucs dedans, Mais il faut bien que quelqu'un ouvre le paquet cadeau, et c'est ce que vous faites au, au Masque et la Plume. Mais là, moi, je ne suis plus invité, quoi. C'est le moment où je ne suis pas invité.
Mais alors, je suis quand même très surprise que finalement, vous n'avez aucune critique à adresser aux critiques, l'un et l'autre.
Si, mais ça, c'est très... Ça ne se passe pas ici. Pas ce soir. C'est compliqué, le rapport aux critiques. C'est vraiment compliqué. Enfin, moi, je ne suis pas en tant que, qu'auteur ou que... talent, parce que c'est, on entend souvent ça, les talents, vous mettez-vous là, les autres, mettez-vous ailleurs. Mais, et notamment avec Maurice, il y a quelque chose qu'on comprend de l'ordre, ce que pouvait dire Arnaud tout à l'heure, c'est pas les bonnes personnes pour ça, c'est une évidence. Mmh. Mais ça blesse énormément. C'est, je pense, moi je dis souvent aux réalisateurs que je produis maintenant, d'avoir vécu 20 ans avec Piala, je sais des choses dont personne ne peut imaginer à quel point ça blesse. C'est pas seulement les critiques, il y a plein d'autres choses. Un metteur en scène, c'est le patron, on dira, mais c'est vraiment le homard avec toute son voilà, avec ses pinces et tout, mais au moment de la mue. Donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui reçoit tout très douloureusement, on va dire.
Pierre.
Non, mais il faut dire aussi que les cinéastes, et c'est tout à fait leur droit, ont tendance à ne n'écouter que le mauvais, en quelque sorte.
À ne retenir que les mauvaises critiques.
C'est-à-dire que, par exemple, une fois, je me souviens qu'il y avait une émission, on avait fait un masque avec Patrice Lecomte, qui se plaignait beaucoup des critiques, et il se trouve que, moi, j'étais au micro, et à un moment donné, je lui dis, mais pour votre film ridicule, par exemple, moi, je me souviens, moi, avoir écrit deux pages extrêmement élogieuses. Et il m'a regardé, enfin, je trahis à peine sa pensée, il a dit, oui, mais moi, je n'avais vu que votre confrère de Libé qui m'avait massacré. Donc, et ça se comprend, ça se comprend. Donc, autrement dit, quelquefois, on a beau dire du bien, on ne retient que le mal.
Mais est-ce que les uns les autres, Jean-Marc, Muriel, Charlotte, vous avez en tête le fait de blesser possiblement, finalement, Charlotte
Oui, alors, moi, il se trouve que mon histoire avec le masque, elle a démarré au théâtre, il y a 20 ans maintenant. Et je me souviens que pendant des années, je me dis, au théâtre, les comédiens, ils jouent encore le soir. C'est-à-dire qu'un film, il est terminé, il est livré. Alors, je sais que c'est aussi difficile pour les metteurs en scène, mais en tout cas, j'ai toujours fait attention plus quand j'étais au théâtre, en me disant, ah, quand même, c'est chaud, quoi. Ils doivent remonter sur scène chaque soir. Donc, je faisais un peu gaffe.
Tu faisais plus attention pour le théâtre que tu ne le fais pour le cinéma.
Absolument. Et après, quand j'ai basculé en cinéma, j'ai fait un peu les deux. Et puis après, je suis restée dans l'équipe cinéma. Je me souviens quand même m'être fait la réflexion en me disant, bon, bah voilà, le film, les acteurs sont passés à autre chose, parce que c'est vrai que j'ai souvent plus en tête les acteurs que les metteurs en scène, à tort, en me disant, bon, les acteurs d'un film, ils en tournent déjà un autre, ils l'ont fait il y a un an et demi, ils ne sont plus à vif comme au théâtre, donc je me suis probablement un peu plus lâchée. Et aussi, peut-être, pour le raconter brièvement, c'est quand j'étais rentrée, c'était l'année des 50 ans, donc bah, j'avais 20 ans de moins, et il y avait eu un très beau livre cette année-là pour les 50 ans du masque, et Xavier Le Herpeur et moi étions les deux bleus de l'année à être rentrés cette année-là. Et un livre avait été fait sur l'histoire du Masque et la Plume, avec des chapitres, et en exergue du chapitre théâtre avait été sortie une phrase que j'avais dite à propos du quartet de Heiner Müller, et il y avait écrit « Isabelle Huppert, elle jouit dans la raideur. Charlotte !» Et quand je l'ai vue imprimée, alors bon, pour ceux qui ont vu le spectacle, c'était pas complètement à côté de la plaque, néanmoins, je me suis dit « Oh là là, c'est quand même un peu rude. »
C'est écrit.
J'étais rouge comme une tomate, je m'en suis énormément voulu et j'ai fait un peu plus attention. J'espère qu'Isabelle Huppert ne m'en tiendra pas rigueur de ce petit jeu de mots un peu indécent.
Muriel Joudet, qui est arrivée à la tribune du Masque il y a une petite année environ.
Moi, j'ai l'impression que la critique négative a l'air toujours plus vraie que les compliments. Il y a quelque chose. On a toujours l'impression que.
Mais c'est vrai.
Voilà. Et après, je pense que notre critique, notre métier s'adosse à quelque chose qui est qu'on doit nier absolument le fait que vous passez des années à travailler. On est obligé parce que c'est notre métier et donc notre métier se fonde presque sur une injustice fondamentale. Et c'est comme ça, sinon il ne peut pas y avoir de critique. Donc il y a des gens qui font des films pendant 10 ans, voilà, qui portent des projets, qui sont habités par des projets. Et nous, on arrive et on est obligé de nier ce travail-là. Voilà. Et après, il ne faut pas qu'on vous croise, c'est tout, quoi. Ça t'arrive.
Non, mais c'est vrai que le. Je me souviens, au moment de Nos Amours, il y avait Serge Danet qui avait fait une double page sur le film qui était dithyrambique. Il devait y avoir forcément quelque part une mauvaise critique, mais je me souviens que Maurice disait Ben, finalement, je préfère quand il dégomme, parce que là, je comprends rien. Ces métaphores météorologiques, je comprends rien.
Mais c'est beaucoup plus facile, je trouve, de faire une mauvaise critique qu'un éloge. C'est beaucoup plus difficile. Ça paraît absurde ce que je dis, mais je crois que mes confrères ont
une responsabilité.
C'est très simple d'être méchant.
Mais la critique n'est pas non plus seulement
Jean-Marc Lalanne.
D'un jugement qui soit négatif ou positif. C'est aussi une analyse, une interprétation. C'est très amusant l'anecdote sur Danet et Maurice Pialat qui comprend rien. Mais pour moi, par exemple, l'expression du jugement est peut-être moins importante que déplier le film et qu'il soit comme un coffre-fort dans lequel j'essaie de savoir quels sont les secrets à trouver. Ensuite, malgré tout, je pense qu'une bonne critique doit à un moment donné clairement exprimer si on aime ou si on n'aime pas. Mais pour moi, c'est peut-être pas l'horizon de la critique, même si forcément il faut en passer par là. Et moi, je crois un peu contrairement à ce que disait Muriel, je m'épanouis plus quand j'aime que quand je n'aime pas. Je n'ai pas de plaisir au spectacle de la détestation, même
tu
si
il m'arrive. Tu as un cœur.
Même si forcément, je m'astreins malgré tout lorsque je n'aime pas du tout quelque chose à le dire clairement.
Mais parce que c'est une question d'émotion. Tout ça. C'est-à-dire que nous aussi, on essaye de transmettre et de partager au public une émotion qu'on a ressentie. Et parfois, c'est effectivement plus délicat. Mais c'est qu'une question d'émotion.
Pierre, quel est ton premier masque et la plume en tant que critique ?
Oh là là ! Alors, c'est très particulier. Ça a été un désastre. Il se trouve que cette année-là, mais il y a très, 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 très longtemps, Télérama, qui était mon journal, avait passé un accord avec Radio France. Et dans cet accord, il y avait le fait absolument incroyable qu'un journaliste de Télérama, qui n'était pas invité au masque à l'époque, fasse partie du masque. Et alors, la hurie que Télérama avait choisi, Claude-Marie Trémoire qui dirigeait la rubrique, c'était moi. Et donc, me voilà arrivé au Festival de Cannes, sans jamais avoir fait l'émission, et je sais pas, Rebecca, si tu te rends compte, c'était Pierre Bouteiller qui animait ça. Est-ce que tu te rends compte du fait d'un animateur célèbre à qui on ordonne de faire venir quelqu'un qu'il n'a pas envie d'accueillir? Alors, il me dit, oui, vous êtes Télérama, bonjour. Il a été exquis, mais on sentait qu'il était fou de rage de me faire participer quelqu'un qui voulait pas. Et moi, vous imaginez, alors déjà, le trac de participer au masque, le trac de me sentir absolument pas désiré, mais alors pas désiré du tout, du tout, du tout. Donc, ça a été une catastrophe. Et j'ai fait le masque 2-3 fois parce que, malgré tout, il était vraiment, c'était un homme très gentil, donc il m'a invité, mais c'était une catastrophe, et j'ai dû attendre Jérôme Garcin pour m'épanouir.
Et mais... tu es toujours et resteras là, Pierre Murat.
Notre chaîne.
L'une des particularités du masque, vous vouliez dire quelque chose, Arnaud ?
Non, mais je voulais rebondir sur ce que vous disiez l'un et l'autre, mais il me semble, moi avec l'âge, c'est plus difficile pour moi d'écouter le masque, et j'entends la nécessité de la vocation critique, c'est parce que j'ai un souvenir très fort d'un festival de Venise où c'était Tarantino qui était président du jury, et il avait proposé une règle de départ que je trouvais merveilleuse, et moi j'ai beaucoup d'admiration pour son livre sur le cinéma, je trouve que c'est un critique de cinéma passionnant, peut-être polémique, mais passionnant, et il nous avait dit, voilà, ce n'est pas possible, dans un film de 1h30, 1h25, 3h, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas quelques secondes qui vous aient bouleversé. C'est impossible. Il y a quelque chose que vous avez aimé. Même si vous détestez le film, il y a quelque chose, il y a un tout petit trésor, un regard, une femme qui se retourne, un type qui chute, un arbre qui bruisse. Il y a quelque chose qui est beau. Donc ça ne m'intéresse pas de savoir ce que vous aimez pas dans le film. Chacun, on va d'abord commencer par un tour de table où chacun est obligé de dire ce qu'il admire. Alors cette politique de l'éloge, je trouvais ça magnifique venant de sa part. Alors d'abord on faisait l'éloge et après on disait, alors par ailleurs je déteste le film pour toutes les autres raisons. Et là on commençait à se lâcher, etc.
Mais c'est vrai, il y a toujours, à ton avis, dans un film, 3 secondes qui...
C'est pas possible, c'était sa croyance au cinéma.
Le générique de fin.
Oui, mais c'est pas mal, ça peut être pas mal. Il doit y avoir un moment où il y a... Oui, nécessairement.
Mais est-ce parce que c'est pas théorique, quoi, comme idée, qu'il y a 3 secondes par dans un film?
Mais non, mais parce que c'est du cinéma, c'est pas de la peinture. C'est-à-dire, ça capture de la vie. Il y a quelque chose qui vient pas du réalisateur. Quand je disais, c'est un arbre, c'est une rivière, c'est un paysage. Alors, vous détestez le film, et ben, à un moment, il y a un truc. Ça vous rappelle quelque chose de votre enfance, quelque chose. Il y a quelque chose. Vous trouvez, il y a un acteur que vous trouvez beaucoup plus drôle que le réalisateur qui est en train de faire le film. Il y a quelque chose. Il y a une réplique qui est saillante. Il y a quelque chose qui doit vous séduire. Et c'est ça auquel moi je m'attache maintenant et qui est très difficile. C'est à cette politique de l'éloge que je trouve très difficile et qu'on lit parfois dans des moments. J'ai comme ça le souvenir d'un texte écrit à la mort de Gina Rowlands dans Le Monde, qui était écrit par vous, qui était une politique de l'éloge. De Muriel Joudet, qui était comment faire l'éloge de Gina Rowlands, qui était, c'est pas une actrice facile à dépeindre comme ça. Et l'article était merveilleux parce qu'il arrivait à déplier justement tous des couleurs que je savais pas que je savais, quoi. Ah bah c'est si. Cette politique de l'éloge qui m'emplit plus aujourd'hui que la critique.
Les 20 ans prochains au masque, je vais utiliser cette méthode.
Non, il ne faut pas que le masque soit strictement
il faut de la critique aussi. Il faut
une
de la critique.
Politique de l'éloge, parce que l'une des spécificités du masque, aujourd'hui encore plus qu'hier, c'est précisément de défier l'algorithme, si je puis dire, qui nous enferme chacun dans une espèce de bulle où on pense tous la même chose, et la programmation même du masque va dans ce sens, de mettre côte à côte ce qu'on appelle des blockbusters et aussi des films d'auteur.
Mais c'est merveilleux se disputer sur des films, c'est merveilleux.
Et c'est ce que le public aime avez. Aussi souvent, les retours qu'on a, ils adorent les émissions où on s'engueule.
Oui,
soyons honnêtes, quand on est un peu tous unanimes dans un sens ou dans l'autre, c'est beaucoup moins intéressant.
Et on fait
ils ne disent rien, mais ils sont sadiques.
Et on fait tous. Non, mais je veux dire, et on fait tous un numéro.
Bien
c'est
sûr.
Vrai que le masque, c'est du théâtre. C'est l'équipe théâtre va arriver. Mais nous, enfin moi, en tant que toute critique de cinéma, on est là et on se dit, le public est là, qui donne le trac encore plus. Et donc, on est comme un acteur qui entre en scène et on
récite. Tu es Isabelle Huppert, tu jouis dans la raideur.
Pour jouer dans la raideur, si
pas tellement la raideur.
Non, mais on sent que vous échappez à votre solitude dans l'écriture. On sent que là, il y a quelque chose de l'ordre de... d'une arène où vous avez la parole, en fait.
Ces 70 ans deviennent l'éloge du masque, dites donc, je ne m'attendais pas à ça. Sylvie Piala, Arnaud Desplechin, merci beaucoup.
Merci.
D'être venu fêter ces 70 ans avec nous. Chers critiques, je vous laisse rejoindre soit les coulisses, soit les fauteuils du studio 104. Le masque 1955-2025, ça continue. Il y a 11 ans, le 31 août 2014 précisément, la tribune littéraire de Jérôme Garcin débattait de « Et rien d'autre », roman de l'américain James Salter. Michel Crépu, Éric Nehoff et Olivia de Lamberterie étaient au micro quand, soudain, monsieur Jean-Louis Hésine.
Je me suis surpris à le relire en le lisant, si j'ose dire. C'est-à-dire que...
Proust, le relire en le lisant.
Oui, ça arrive avec Proust aussi. Mais là, Proust, c'est parce que quand tu es au bout de la phrase, tu as oublié le début. Mais là non, c'est... Tu relis comme tu relis parce que tu goûtes, tu t'abandonnes. Il y a même, c'est même un auteur qui fait une chose très rare. C'est très difficile à faire, une figure de style. Ça s'appelle des œugmas. Il fait des œugmas.
C'est pas un problème d'œil, hein, c'est pas
non,
ça.
Non. Le œugma, c'est une figure de style qui consiste à faire dépendre d'un même mot des choses qui n'ont pas de rapport entre elles.
Une partie avec colère et avec son chapeau.
Voilà. De l'échafaudage tombe, ça c'est du Salter. De l'échafaudage tombaient des lambeaux de paroles quand ce n'était pas un morceau de bois ou des clous. Ça, j'aime beaucoup.
Très beau œugma.
C'est un beau œugma. Moins drôle peut-être que ceux de Desproges qui avaient osé, après avoir sauté sa belle-sœur et le repas de midi, le petit prince reprit enfin ses esprits et une banane. Ça, c'est un œugma. On peut faire des œugmas sur le dos d'un auteur comme Satex. Ça, c'est bien. Gide en faisait, Gide a osé, il tira de sa poitrine un soupir et de sa redingote une enveloppe jaune.
Maintenant que quatre des critiques de la Tribune Livre, Elisabeth Philippe, Arnaud Vivian, Patricia Martin et Jean-Marc Proust m'ont rejointe sur la scène du Studio 104, merci d'accueillir une autrice et un auteur, Adèle Yon et Daniel Pénac. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Daniel Pénac et le masque, C'est une longue histoire, depuis les débuts de la saga Malocène au Bonheur des Ogres en 1985 jusqu'à Mon Assassin, paru en 2024 en passant par Chagrin d'école ou Journal d'un corps. Et je précise, Daniel, que vous venez de publier Le roman des regards avec le photographe Laurent Mallet, paru chez Philippe Ray. Adèle Yon, vous êtes l'autrice d'un premier roman paru aux éditions du Sous-Sol au début de cette année. Et ce premier livre s'intitule « Mon vrai nom est Elisabeth », roman, essai, autofiction, enquête sur Elisabeth, votre arrière-grand-mère atteinte de schizophrénie. Le livre a été lauréat de plusieurs prix, dont celui du Nouvel Obs. Et c'est un succès exceptionnel. Alors, question qui va revenir comme un refrain tout au long de cette émission anniversaire, du haut de vos 31 ans, je crois, Adèle. Est-ce que vous avez un parcours d'auditrice avec le masque ?
Oui, du haut de mes 31 ans, j'allais dire, hein, parce que quand même, entre ses 15 et ses 30 ans, on n'écoute pas beaucoup le masque et la plume.
Comment
vous
ça ?
Vous en conviendrez. Donc pour moi, le masque, c'est plutôt une histoire d'enfance, entre mes 4 et mes 14, on va dire, avant l'adolescence. C'est un souvenir assez contradictoire. On écoutait toujours le masque en voiture, avec mes parents et mes sœurs, en rentrant de week-end. Ils nous faisaient dîner avant de monter dans la voiture. Et puis, on sautait dans la voiture à 19h59. Et quand le masque commençait, c'est que le trajet était commencé. Et là, j'avais une sensation qui est vraiment une sensation de l'enfance, d'avoir tous les gens que j'aimais autour de moi dans le même habitacle et que rien ne pouvait m'arriver. C'était ma mère, mon père, mes deux sœurs jumelles et notre chien, Corto. On était tous là. Et en même temps, j'arrivais pas à dormir parce qu'au masque, on s'engueulait. Et je pense que ces engueulades étaient finalement les seules émissions radio pour moi où les échanges ressemblaient à ceux qu'on avait en famille. Et donc, quelque part...
Une famille un peu dysfonctionnelle, parfois.
Oh, en tout cas, je sais pas si ça rend ça plus dysfonctionnel que les familles qui ne se disent rien, mais en tout cas, une famille qui parlait vertement, on va dire.
Et alors, est-ce que vos oreilles d'auditrice ont changé depuis que vous êtes autrice, justement ?
Oui, alors je suis revenue un peu dans le jeu de la littérature contemporaine qui n'a pas été mes lectures principales en fait pendant toutes mes années d'éducation, d'instruction. Donc aujourd'hui, je réécoute le masque presque, j'ai envie de dire, depuis la sortie de mon livre. Ça m'a remis le pied à l'étrier.
Alors contrairement à ce que disaient Arnaud Desplechin et Sylvie Piala, vous êtes mise à écouter depuis que vous publiez. Tandis que Sylvie Piala et Arnaud Desplechin disaient non.
Alors je ne sais pas si je vais continuer à le faire, si je continue à publier, mais en tout cas à cette occasion-là, je l'ai fait, non sans crainte, mais je l'ai fait.
Et vous, Daniel, quel auditeur du masque êtes-vous ?
À moi, cet anniversaire est une très mauvaise nouvelle, parce que je vous écoute depuis toujours. Mais vous écoutant depuis toujours, je pensais que vous datiez de toute éternité. Pas du tout, vous avez 11 ans de moins que moi, je vous déteste. 11 ans de moins.
Et est-ce que l'expérience et une bibliographie copieuse permet d'adoucir les critiques ? Est-ce qu'avec le temps, on les reçoit
de façon plus apaisée ? On a de la gratitude, rien que cette année, vous m'avez fait lire... Laure Murat, un Proust roman familial, qui est une merveille absolue, une espèce de truc à la fois tout à fait analytique, subjectif, explosif.
Daniel Pénac, nouveau critique du Masque et la Plume.
Et que ça, c'est grâce à vous. Merci. Le Mauvignier, que je suis en train de finir. Alors, il a eu le Goncourt. C'est marrant avec les Goncourt. Il y a deux types de Goncourt. Il y a les romans qui ont été honorés par le Goncourt tous les ans, comme ça. Et puis tout d'un coup, on voit débarquer un roman qui honore le prix Goncourt. J'espère que le jury Goncourt a remercié Mauvignier d'être Mauvignier, d'avoir écrit ce livre, c'est un honneur pour eux de l'avoir primé.
Je le redis.
C'est grâce à vous aussi, parce que c'est vous qui m'avez fourgué.
Mauvignier. Qui vous avez
encore
refourgué.
Il y avait quelques nuances. Que je ne nommerai pas. trouver qu'il
pourquoi
était...
Pourquoi ce regard assassin?
Je vois pas de qui vous parlez. Je regarde les deux que j'ai sous les yeux.
Sans doute trouver mon pire souvenir du masque, puisque Jean-Marc avait sorti une barquette de margarine et on était sous des spots, et la margarine fondait et ça sentait mauvais, c'était horrible.
Oui. Non, moi, bon, Vignier, on parlait
Arnaud.
De bon,
ah non, tu vas pas
regarder
les critiques. Attends.
Je l'ai pas encore. Non, mais... Je n'ai pas encore dit qui c'était, ils se sentent coupables.
Non, je pensais que vous parliez de vos livres. Alors ça, je voyais à peu près. Mais le Mauvigny, moi, je l'ai défendu.
Mollement.
Alors, quelqu'un, l'un de vous deux...
Oui, il y a quelqu'un qui ne l'a pas défendu.
Je n'ai pas une balance. Vous voulez le raccourcir. Mais raccourcir Mauvigny, ça équivaudrait à couper toutes ces phrases en deux. C'est comme si on disait d'un type qu'il est trop grand, on va te couper les jambes, tu auras une taille correcte. Mais non, c'est absolument magnifique.
J'aimerais juste, Daniel, si vous permettez, donner son nom quand même de celui qui a sorti.
Il voulait raccourcir Mauvigny.
Oui, il s'appelle Jean-Marc Proust.
Mais c'est vrai que l'idée de couper les phrases en deux aurait pu alléger ce livre.
Ah, et voilà, il persiste et signe.
Alors autrement, j'en ai un autre parmi les deux qui affecte de m'appeler Penac. Depuis une éternité, c'est le seul au monde, enfin dans mon monde à moi, c'est le seul. Alors je crois qu'il s'appelle Arnaud Vavien, un truc comme ça.
Ce qu'on appelait autrefois un chibolette, cette manière de prononcer Penac. En fait. Voilà, ça relève de ça. Puis juste une petite anecdote. Parce qu'on ne voudrait pas rester sur un truc conflictuel, j'espère bien, tous les deux, puis c'est l'anniversaire. Un jour, j'ai lu Journal du Corps.
T'en avais dit beaucoup de bien ici,
oui,
au masque,
d'ailleurs. Mais surtout, c'est un livre qui m'a fait comprendre quelque chose. Alors, c'est un peu intime, mais comme c'est dans le livre, et c'est très important, c'est que, pour le dire très crûment, quand j'ai le vertige, j'ai mal aux testicules.
À vous aussi.
Exactement. Eh ben, je me suis dit, je ne comprends pas le rapport. Alors, je ne sais pas, Daniel, si vous avez découvert le rapport, mais ça, c'est dans Journal d'un corps, et c'est un truc qui, sur le moment, mais qui continue absolument, m'a rassuré énormément.
Non, mais on ira ensemble en montagne et devant une falaise, vous verrez, on aura tous les deux.
Et tous les deux, on dira, waouh.
Jean-Marc, toi qui es arrivé au masque le plus récemment parmi les trois critiques présents, dans quel état d'esprit tu arrives à la tribune?
Ah ben, la première
en
fois,
dehors d'avoir l'ambition de raccourcir un roman magnifique.
La première fois, on a la trouille au ventre. Après, la difficulté première, je crois, c'est qu'il faut lire les livres.
Et... Je sais que certains des critiques historiques du masque ne prenaient pas toujours cette...
Voilà. On veut des noms.
Il y a quelques années, il y a deux universitaires américains qui se sont penchés sur les critiques positives dans les grands quotidiens des États-Unis et se sont aperçus que les citations dépassaient rarement la page 30. Et en fait, c'est tout le problème de la critique. C'est-à-dire que si vous faites une critique positive, tout le monde va trouver ça formidable. Et vous n'avez pas besoin d'avoir lu le livre, finalement. Et je pense que la difficulté première, quand on est comme moi, un petit peu exigeant... Ce n'est pas le cas de tout le monde, je le concède.
Attends, ça va se régler après l'émission, ça.
Mais on a des années pour
comment
régler ça, Patricia.
Tu me traites donc de cloche ou de pas exigeante, c'est ça?
C'est toi qui t'es senti visée, j'ai dit, mais personne.
Parce qu'en général, je suis plutôt bonne patte et je suis plutôt bon public, moi.
Et c'est pour ça
contrairement
que
à toi.
Et je pense que quand on fait des critiques un petit peu exigeantes, il faut qu'on soit irréprochable. C'est-à-dire qu'il faut lire le livre de A à Z, de la première à la dernière page. Il faut trouver des arguments. Parce que sinon, tout le monde va vous tomber dessus. Et je pense que c'est ça l'exercice le plus difficile de la critique. J'ai entendu tout à l'heure dire que c'était plus difficile de faire une critique positive que négative. Je pense que c'est l'inverse. Parce que la critique positive, personne ne vous en tiendra rigueur. La critique négative, elle va tout de suite être retenue. Et d'ailleurs, Daniel Penac vient d'en parler à l'instant.
Et vous, Adèle, comment vivez-vous les critiques? Quel est votre rapport à la critique, Adèle Lyon?
J'ai eu beaucoup de chance jusqu'ici, on va dire que ça a été très bien accompagné par la critique, donc j'ai peu eu à subir ce que ça implique de recevoir une mauvaise critique, hormis au masque et la plume, avec Monsieur Vivian, qui, j'espère, souscrit à la recommandation de son collègue d'avoir lu le livre en entier. et... Mais voilà, ça, et en fait, ça m'a assez réjouie, pour tout vous dire, et je vous en remercie, parce que sinon, ma vision du masque aurait été profondément transformée, et j'aurais été triste de ne pas retrouver cette petite émotion d'enfance devant la joute verbale des critiques.
La critique, c'est pas compliqué, elle a deux états. Soit elle est unanime, soit elle est divisée. Cherchez pas plus loin. Et donc là, vous étiez pas loin de l'unanimité. Malheureusement, j'étais pas d'accord avec mes petits camarades sur votre livre, dont j'ai immédiatement dit, par ailleurs, c'est un très bon produit d'époque, il va se vendre très bien. Et là, je me suis pas trompé. Donc, c'est ça aussi mon métier. La critique, c'est pas une opinion, contrairement à ce que tout le monde pense, quoi. C'est une information. Les critiques sont des journalistes. Et je voudrais remercier France Inter d'accueillir depuis si longtemps ces journalistes qui viennent souvent d'autres horizons, de la presse écrite, pour parler de leur travail. Leur travail, c'est quoi? C'est le travail de tout journaliste, c'est de dire ce qui se passe dans le réel. Hein, ce qu'il y a du neuf. Hein, tous les journalistes disent, bah, qu'est-ce qu'il y a de neuf aujourd'hui, quoi? C'est là-dessus qu'on va travailler. Donc c'est important, et France Inter est là, il faut vraiment les remercier.
Elisabeth Philippe.
Oui, pour compléter ce que dit Arnaud, le plaisir aussi de l'exercice critique et de la façon dont on le fait au masque ici, c'est de prolonger la conversation. On est seul face à l'œuvre quand on la lit. Et tout d'un coup, on va avoir ces échanges autour d'un objet commun. Donc il y a aussi une forme de partage. Et ça devient de plus en plus rare. Je voudrais pas partir dans des envolées lyriques, mais je trouve que c'est ce qui fait aussi l'intérêt et le bonheur de cette émission, aussi bien quand on la fait que quand on l'écoute. Et j'en profite puisque Arnaud s'est permis une petite anecdote personnelle. Moi, je voulais simplement vous dire que j'étais très heureuse puisque Daniel Pénac est certainement un des premiers auteurs qui m'a donné envie de faire ce métier de critique. Je devais avoir 9 ans. Vous étiez venue à Auxerre, je crois que c'était Salvo-Labelle, et moi j'étais une petite fille de 9 ans, et j'étais venue vous écouter et faire signer mon livre, ça devait être La Fée Carabine, et d'être aussi ici en présence d'Adèle Lyon, bah, qui est une jeune autrice qui me donne...
Elle prononce bien votre nom en plus, quoi.
Bah oui, par respect, parce que moi je respecte Monsieur Pénac.
En ce qui concerne Daniel... Le masque est divisé sur la prononciation.
Mais avec ce que vient de dire Elisabeth.
Adèle, en ce qui concerne Adèle Lyon, moi je suis en désaccord complet avec Monsieur Vavien. Désaccord complet. Mon vrai nom est Elisabeth, c'est du pain complet.
Là, au moins, c'est clair sur le nom. C'est clair. Voilà.
Mon vrai nom est Elisabeth.
Vous diriez mon vrai nom.
Après, nous dirons nos vrais noms.
Parce qu'il y a deux N. Bon, parce que je l'entendrai. Je viens de l'entendre.
C'est du pain complet. Elle sait tout faire, cette fille. C'est une romancière qui raconte une histoire que l'on suit de A à Z. 2, c'est une mémorialiste extrêmement cultivée. 3, c'est une épistolaire. Il y a une partie épistolaire dans le roman. 4, c'est une chercheuse.
Mais ça va, t'arrêtes. Enfin, vous arrêtez, Daniel Pénac, de nous piquer notre boulot.
Et 5, c'est une dialoguiste. Bon.
Adèle.
Oui, non, mais c'est quand même très drôle parce que Daniel et moi, on était planqués là derrière à vous écouter.
On vous a
juste
cherché
avant.
Partout parce qu'on savait pas où vous étiez. Alors j'ai dit, soit ils sont partis en voyage ensemble, ce qui peut arriver, soit ils sont planqués dans une loge.
Mais là où non, est, mais où, là où est planqué Murat. Regardez, retournez-vous.
Et figurez-vous que Daniel m'a raconté une blague. Daniel, il faut la raconter parce que là, Elisabeth vient de dire qu'à 9 ans, elle avait voulu être critique grâce à vous.
Ah,
dans l'air, il faut raconter la blague.
Ce qui est contre la blague de Woody Allen qui disait « On n'a jamais entendu un enfant dire « Quand je serai grand, je serai critique. » Ben si, vous.
Et voilà, à cause de vous.
Merci Daniel Pénac et Adèle Lyon d'être venus fêter les 70 ans du Masque et la Plume sur cette scène du Studio 104. Je vous laisse rejoindre la salle ou vous asseoir si vous le souhaitez aux côtés de Pierre Murat. Et les critiques littéraires vont céder leur place aux critiques théâtre pour clore cette émission anniversaire. Toute la semaine à 8h moins 2 sur France Inter, vous avez pu entendre des archives du Masque et la Plume. Je suis presque tentée de dire des tubes de l'émission, comme on dirait d'une chanson, notamment avec le duo Georges Charensol-Jean-Louis Bory. Avant de parler du théâtre d'aujourd'hui, retour sur l'année 1969. La tribune est alors dirigée par François-Régis Bastide, Guy Dumur, Mathieu Gallet, Pierre-Marc Abru débattent de la comédie musicale R, et la parole est donnée à Gilles Sandier. Gilles Sandier, dont tu me disais, Jérôme, je ne sais pas où tu es dans la salle, tu me disais en tout cas que tu étais à la fois admiratif et parfois saisi par la violence de ses critiques. Lorsque cet homme, immense mémoire du théâtre, était au micro, bien souvent, le silence se faisait face à son autorité critique, face à sa solennité aussi. Je disais au début de cette émission que Le Masque était une histoire culturelle, mais aussi politique et sociale. Sandier avait vu la comédie musicale R à Londres en 1969, année érotique.
Il y avait, dans ce que j'ai vu, un spectacle où une sincérité restait encore, malgré l'aspect commercial du spectacle. C'est-à-dire qu'il y avait, dans le langage physique, une vérité, une sincérité qui était évidente. Et je dis que les acteurs que j'ai vus à Londres, je ne sais pas comment ils étaient recrutés, étaient-ce des gens ramassés dans les rues, ou par radio et télévision, comme ils l'ont fait à Paris, étaient-ce des professionnels, je n'en sais rien. Mais ce que j'ai vu sur scène, c'était 30 acteurs et danseurs, garçons et filles, qui étaient tous pris d'une espèce de... Non, c'est pas la frénésie qui me frappe, c'est la justesse de ce qui est dit à travers le rythme et la gesticulation. Il y avait une vérité érotique, sensuelle, qui était très frappante. Et en effet, quand on associait les vieux thèmes contestataires du cabaret de New York, à savoir la protestation contre la société américaine, la protestation contre la guerre du Vietnam, la volonté de libération sexuelle, la célébration de l'homosexualité comme un élément possible de libération sexuelle, l'appel également à la drogue comme aussi une incitation à la révolte contre une société, tout ça dans le spectacle de Londres, je le ressentais.
Tandis que Fabienne Pascaud, Pierre Lesquelaine, Sandrine Blanchard et Laurent Vallière viennent de me rejoindre, merci. Merci d'accueillir des artistes qui, à eux deux, sont metteurs en scène, comédiens, scénographes et dramaturges, Éric Ruff et Alexis Michalik.
Bonsoir.
Bonsoir à tous les deux. Éric Ruff, vous avez quitté vos fonctions d'administrateur général de la Comédie Française cet été, après un triomphe. Votre mise en scène du Soulier de Satin, qui fut aussi jouée dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon cet été. Alexis...
Moi, j'ai quitté les pistes de ski pour venir vous souhaiter un joyeux anniversaire, et je suis ravi d'être là.
Alexis Michalik, donc, skieur et dramaturge. 5 de vos pièces sont à l'affiche en ce moment à Paris, dont 2 à Marseille et Bordeaux. Edmond, le porteur d'histoire, les producteurs Intramuros et Passeport, qui a été récemment débattu au Masque et la Plume. Alors, même question, une fois de plus, quel est votre vécu d'auditeur du Masque? On commence avec vous, Éric.
Oui, j'écoutais Arnaud Desplechin tout à l'heure, qui semblait dire que c'était de plus en plus difficile pour lui de l'écouter. Moi, au contraire, là, dans l'histoire de cette émission, et moi vieillissant, je gagne en philosophie. J'ai un souvenir très précis pour le coup, parce que j'ai failli avoir un accident de voiture en écoutant Le Masque et la Plume, et ça ne me concernait absolument pas. J'ai aucun souvenir de quel spectacle il s'agissait, mais les commentaires étaient tellement lapidaires, me semblaient tellement violents sur des gens que je ne connaissais pas, que j'ai commencé à freiner, taper sur le volant. Voilà. Je suis arrivé sur une aire d'autoroute et je me suis calmé en disant mais c'est absolument ridicule, et voilà, j'ai beaucoup gagné en philosophie.
Donc Le Masque et la Plume serait selon vous une sorte un peu de menace pour la sécurité routière, selon les critiques?
Non, ça aide à ralentir. C'est plutôt bien, une sorte de radar.
Mais est-ce que parfois la critique peut être un aiguillon pour écrire ou mettre en scène? Oui, est-ce qu'elle peut être un guide à
l'écoute? Un aiguillon, vous dites?
Mais oui.
Je ne sais pas si ça peut être un aiguillon. Parfois, il arrive que la critique me dise, je me dis genre, ah tiens, ils ont raison là, si c'est quelque chose que je peux changer. Mais je vais vous faire une confidence, je n'ai jamais écouté Le Masque et la Plume. Et je sais.
Ça, c'est ce qu'on dit toujours.
Eh ben, écoutez, Fabienne, je sais que vous ne me croyez pas, mais et pourtant c'est vrai. Mais après, tout le monde me dit toujours, ah, t'as entendu le masque et la plume. Et je dis oui, oui, je vais écouter. Et puis après, je vois que ça dure une heure, et j'avoue que je j'ai pas la force.
Vous savez que maintenant sur l'application, vous pouvez écouter juste les spectacles qui vous intéressent.
Moi, on m'a dit, vous êtes là pour critiquer les critiques, donc vous voyez, ça fait mal, ça fait un petit peu mal. Eh ben, c'est exactement ce qu'on ressent quand vous parlez de notre spectacle et que vous nous descendez. Merci beaucoup. Un petit goût de votre propre médecine, en quelque sorte. Alors, est-ce que ça peut aider? Peut-être. Peut-être que vous allez vous dire, une fois que je vous ai dit ça, bon, bah, comment faire pour qu'Alexis Michalik, il écoute le masque et la plume? Peut-être qu'il faut réduire notre émission, peut-être qu'il faut changer le concept, peut-être qu'il faut la passer sur TikTok. Ou alors, vous allez vous dire, vous savez quoi, en fait, les critiques, finalement, c'est pas si important que ça. Ce qui compte, c'est de créer. Eh bien, moi, je crée. Et vous, vous critiquez.
Une réponse des critiques ici présents, Fabienne, Pierre, Sandrine ou
les
Laurent.
Les spectacles d'Alexis Michalik durent au moins une heure et demie. Et nous, on a bien la patience de les écouter et de les regarder.
Merci Fabienne. Je pense, et en plus, moi, c'est payant.
En plus.
Vous imaginez. Donc c'est un meilleur modèle économique pour moi que pour vous, en tout cas, c'est sûr.
Pierre, tu es le Benjamin de la tribune du Masque et la Plume et tu as une mémoire des émissions théâtre encore plus vaste que la mienne, je dirais.
Alors moi, j'entendais Adèle Yon qui disait qu'elle écoutait l'émission dans son enfance. Moi, c'était plutôt quand j'étais étudiant, tous les dimanches. Je n'ai pas raté une émission, je pense, depuis 14 ans. Évidemment, comme tout le monde, j'aimais détester cette émission, les critiques théâtre qui étaient notamment avec ce culte du texte qui me rendait un peu fou. Moi, j'aimais les écritures de plateau et les textes, mais je trouvais qu'il y avait d'autres spectacles à défendre. Donc, en arrivant au masque, j'avais envie de faire entendre d'autres discours, le discours d'une autre génération. Voilà. J'essaye autant que faire se peut de le faire.
Ouais. Mais concernant votre rapport à la critique, Éric Ruff, est-ce que vous aussi, vous retenez surtout les mauvaises plutôt que les bonnes?
Mais oui, mais on est tous pareils. Notre orgueil fait que quand c'est bon, on se dit c'est normal, c'est moi. Et quand c'est mauvais, c'est absolument anormal, parce que pourtant c'est moi. Donc, et c'est vrai que je l'observe évidemment chez plein de mes camarades, et dans la presse écrite aussi. La petite phrase qui peut être mal interprétée prend une valeur, une proportion de cruauté dingue dans l'esprit de la personne. Alors que t'as beau lui dire, mais regarde, il y a 3 colonnes de compliments, mais cette réserve-là prend, c'est un suc. Enfin, je sais pas, c'est une maladie, quoi. Donc, c'est encore une fois, il faut être philosophe. C'est intéressant, la critique. Il faut déjà se dire qu'on est dans un océan de subjectifs absolus dans les métiers que nous faisons. Même le succès critique ne veut pas forcément dire quelque chose sur le succès de la fréquentation, ne veut pas dire forcément quelque chose sur à quel point le spectacle va rester dans l'imaginaire collectif ou pas. Ces centres-là sont tellement obscurs, on les maîtrise tellement pas que tout ça n'est pas si grave. Mais comme c'est un océan de subjectifs, moi j'ai toujours l'impression, vous savez, les petits dessins qu'il y a dans les journaux quand on est gosse et qu'il y a des petites croix avec des numéros qu'on rejoint de 1 à 2, de 2 à 3, puis ça fait un dessin à la fin. Bah finalement, l'ensemble des critiques finit par faire un portrait du spectacle qui n'est pas si absurde.
Inintéressant.
Ouais, qui n'est pas si absurde.
Vous opinez du chef quand même, Alexis Michalik, en écoutant Henri Cruff. Bah,
bien sûr, je m'y retrouve. Bah, de toute façon, on est tous un peu pareils. Ça fait toujours plus mal quand on lit une phrase qui fait mal. Moi, je dirais deux choses. La première chose, c'est que c'est toujours plus facile de supporter la critique quand la salle est pleine, déjà. Et la deuxième chose, c'est je pense que je peux tout encaisser. Moi, le seul truc qui me dérange, et c'est vraiment en tant qu'auteur, c'est quand on dévoile la fin de ma pièce. Et personne ne s'y risque en général, à part Fabienne, qui s'est permis de le faire. Je me permets de le dire. Merci Fabienne, absolument. De temps en temps, elle se permet de me dévoiler.
De temps en temps, ça pimente l'article, pourquoi non?
Voilà, elle va donc courir le plaisir des spectateurs uniquement pour pimenter son article.
Mais
merci
non,
Fabienne.
Mais non.
Ou pimenter le masque.
Moi, j'ai vu 20 fois Phèdre, 50 fois l'avare, et j'y vais toujours avec le
on
même
connaît
plaisir.
La fin, oui, c'est
et
sûr.
Et je connais la fin. Donc ça n'empêche pas. Alors, ce qui compte, c'est la forme.
Je suis pas sûr qu'il écrivait sa pièce de la même manière en se disant, je vais garder une petite punchline, un petit retournement de situation.
C'est sûr que vous n'êtes peut-être pas Molière non plus, mais bon.
Allez, merci. Évidemment.
Sandrine ou Laurent, nouveau critique du Masque.
Moi, ce que je me rappelle du Masque et la Plume, c'est surtout les joutes entre Gilles Costas et Jacques Nerson. Parce qu'on avait l'impression vraiment, je sais pas, Jérôme Garcin parlait de théâtre, je sais pas si c'était mise en scène, mais on avait vraiment l'impression qu'ils allaient se casser la gueule après, quoi. Il y en avait un qui était sur une ligne hyper intellectuelle, l'autre qui était beaucoup plus populaire, mais ils s'engueulaient vraiment devant le micro et c'était fascinant, quoi. On avait envie d'aller voir le spectacle juste parce qu'on savait pas vraiment avec qui on était d'accord.
Sandrine?
Moi, c'est un peu comme beaucoup l'ont dit à ce micro. Moi, j'ai connu le Masque, effectivement, dans la voiture de mes parents quand j'étais petite. Et voilà, le retour et cette émission où, effectivement, quand on est enfant, on a l'impression, mais qu'est-ce que c'est que cette émission de gens qui s'engueulent? Et après, ben, jamais j'aurais imaginé qu'un jour, j'en ferais partie. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, ce qui m'a frappé et ce qui m'a plu quand j'ai intégré le Masque, c'est d'en voir les coulisses et de découvrir que, en fait, et ça compte énormément, qu'il y a des règles à respecter, c'est-à-dire de ne pas se parler entre nous avant pour savoir ce que l'autre a pensé du... Voilà, donc on
arrive... C'est vrai, je vous l'interdis.
Voilà, c'est très important. Et on ne sait pas non plus, Rebecca, à qui tu vas donner la parole en premier sur chacun des spectacles.
Mais oui, dans voilà. Un spectacle, il faut
ça,
un minimum...
Ça, c'est stressant. Je trouve que ces règles-là, elles sont essentielles pour le ton, pour la spontanéité de cette émission, parce qu'on arrive, et ça, c'est ce qui aussi fait qu'on a quand même un sacré trac, hein, enfin moi, à chaque fois, hein, je crois que je l'aurai toujours, et finalement, c'est Vincent Josse qui me disait, t'as le trac, tant mieux, c'est bien. et donc, voilà, je trouve que ces règles de ne rien savoir de la vie des autres et de comment va, dans quel sens va se dérouler l'émission, parce qu'on ne sait pas non plus dans quel ordre vont tourner les spectacles. J'adore ces règles.
Oui. Ben voilà, vous voyez, Alexis Michel, le Masque, un sujet d'une future pièce, peut-être.
Peut-être.
Avec Fabienne Pasquier.
Ah ben, je ne sais pas qui va jouer Fabienne, mais ça va être un sacré rôle, je peux vous dire.
Ça va, vous ne regrettez pas d'être venu.
C'était quoi déjà l'orgasme?
La raideur.
La raideur dans l'orgasme.
La jouissance dans la raideur. Dans la raideur. C'est ça, exactement.
Bonbon. Merci Alexis Michalik.
Merci à vous.
Et merci Eric Ruff.
Et bon anniversaire.
Mais vous l'écouterez un jour ou pas alors?
Oui, peut-être.
Mais il l'écoute tous les dimanches.
Waouh.
Il va repartir en décidant de l'écouter désormais.
Tout le monde l'écoute, peu importe que je l'écoute moi.
Mais si, bien sûr. Plus nombreux nous sommes, mieux c'est. Merci à nouveau, en tout
je
cas,
vous en prie.
D'avoir soufflé ces 70 bougies du Masque avec et tout contre. Les critiques, je vous laisse rejoindre soit la salle, soit les coulisses. On termine cette émission anniversaire avec le public, les auditeurs et les auditrices dont les courriers, réactions et témoignages font aussi l'identité et l'histoire du Masque et la Plume.
Alors c'est un souvenir très banal, je pense qu'il y a plein de gens comme moi. J'ai un peu plus de 60 ans et le Masque c'était un partage en famille. Il y avait du rire, de l'humour et de la culture aussi. Ça nous réunissait autour de quelque chose de pacifique.
En famille, on allumait la radio, on se retrouvait. Moi et ma sœur, on comprenait pas tout au début, mais au fur et à mesure, c'était une habitude. Je l'écoute toujours. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. C'est une habitude qui change pas. On aime, ça nous touche.
Moi, je vous ai rencontré il y a environ 8 ans. Au début, je trouvais ça hyper intellectuel. Ça me saoulait. Et puis un soir, j'ai commencé à vous écouter. Au moins tous les podcasts, pour l'instant, ils sont passés. Je fais même des rétrospectives en commençant par les plus anciens. Et maintenant, j'ai presque l'impression de faire partie de votre famille de cinéphiles.
J'ai 74 ans, alors imaginez-vous et devinez si je n'ai pas grandi avec le Masque et la Plume, même quand je n'y comprenais rien, même dans le ventre de ma mère.
Je n'en rate pas une. Vous êtes mon émission préférée. Je vous aime.
Merci, Masque.
Merci pour tout et longue vie au Masque.
Longue vie au Masque. Je vous embrasse.
Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite un très agréable anniversaire à toute l'équipe du Masque, la présente, celle d'avant et les futures.
Le Masque et la Plume.
Et maintenant... sur cette chanson emblématique non seulement de la pop mais aussi du cinéma mondial, à savoir Modern Love de David Bowie. Je demande à tous les critiques du Masque et la Plume et à Jérôme Garcin de me rejoindre sur scène. Les escaliers sont sur la gauche ou sur la droite, messieurs, dames, empruntez-les s'il vous plaît. Depuis cette scène du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, j'aimerais remercier deux des personnes sans qui je ne pourrais pas orchestrer le Masque. Ilinka Negulesco, chargée de programme, et Stéphane Le Guenec, réalisateur, pour leur talent, leur soutien indéfectible, leur humour et leur amour du son. Merci aussi aux jeunes femmes qui furent de passage dans l'équipe et qui nous ont aidés à préparer le Masque depuis que j'en ai pris les rênes il y a 2 ans. Célestine Babinet, Lola Benesch, Nina Malray et Zora Dégoutte. Aujourd'hui, le son de cette émission spéciale était assuré par Benjamin Vignal, Philippe Thibault, Titouan Oex, Cédric Depré, Lorraine Palmer et Nel Fuseau. Merci aussi à Eric Néné et Farid Melab. Vous pouvez écouter la version longue de cette émission spéciale en podcast sur l'appli Radio France, où vous retrouvez aussi Des Masques et la Plume par centaines, classés parfois par thématique, le Masque et Truffaut, le Masque et Duras, etc. C'était le Masque 1955-2025, 70 ans d'enthousiasme, de désaccord, de rire, d'engueulade, 70 ans de culture, de radio et surtout 70 ans de liberté critique sur le service public, évidemment. Merci à toutes et tous.